All right, everybody, welcome back to mossradio.com. You're listening to Moss Radio. My name is DJ Croak, and I'm your host quite often. If you are new to Moss Radio, we are your local online community radio, prioritizing and practicing engagement with each other, listeners, participants, and communities.
Emilio, si tu peux vérifier sur un autre device si tu peux, si ça marche ou pas.
Oui, bien sûr.
Merci.
Okay. Moss Radio streams at select hours, which do change every week, and you can find our programming and exact hours on the schedule page of our website. You can also feel free to contact us through email by at mossradio@proton.me. Again, that is Moss. Quoi?
Je crois que ça marche pas.
Man, comment ça marche pas?
Bah, je t'entends pas.
Ah bon?
Ah ouais.
We are going through technical difficulties, if you can hear me. très drôle tout ça.
Bah, je crois. Hein.
Alors attends, je vais essayer. Tu vas juste. Ça marche. Attends. J'essaye.
Essaye, ouais. Moi, quand je mets, ça, y a rien.
Ah non, si, on est complètement en live. Hein.
Ah bon, bah, ok. Bah, c'est sur mon ordi, je sais pas. On est en live, mais j'entends pas le son.
Reload.
Ouais, parce qu'en fait, je sais, je vois qu'on est en live, mais j'entends pas le son, en fait.
Ouais. Ok. Bon, écoute. Écoutez.
Maybe half of these us. People
won't be able to hear us. The technical difficulties are a struggle.
Yes.
But... yeah, you can feel free to contact us at Moss Radio NYC on Instagram. Again, that is Moss Radio NYC on Instagram. And you can text us at 917-809-4084. Again, that is 917-809-4084. And please feel free to use the chat on the website if you want to. This is the French reading today of La Société Punitive, Foucault's Society... Punitive Society. We're going to be reading The Class of the 3rd of January, 1973. I have a guest here with me.
Yes, I am DJ Poisson Pané. And it's great. I'm here for a mostly French broadcast for some reason. I wonder why. And
we all wonder why.
Yeah. I'm really wondering why. And I'm ready, yes.
Okay, so we're going to be reading, you know, probably just one pair. I feel like we should just do one paragraph each.
Yeah, I feel like it too, yeah.
So let me start off with this. Well, we're just going to be switching to French. No, don't.
Yes. So unfortunately, unless you want some great background noise.
Yeah, some great background. It's like smooth jazz.
Yeah, exactly.
Is what our
we're very humble people. Yeah. You can tell.
Ok, je commence.
Vas-y. Mais peut-être je me dis tu fais deux paragraphes par contre.
Vas-y, ok, vas-y, parfait. On lit le petit truc en italique là au début.
Ouais, on lit le petit truc en italique. Je pense que c'est des. Je sais pas, écoute.
Ok. Alors, leçon du 3 janvier 1973. Classification de société. Incinérante et inhumante. Putain, en plus, je vais dire tellement de mots mal, bro.
T'es trop américain, en fait.
Assimilante et excluante. L'insuffisance de la notion d'exclusion. En fait, c'est des notes. Genre, c'est pas des phrases, là. Pour ton texte, écoute, aux auditeurs.
Oui. Okay. En fait, j'espérais que ce soit plus un peu des définitions genre, qui se basent pour le reste du texte, mais oui, effectivement, là...
Donc, ok, on va éviter...
Oui.
On commence avec le texte. Désolé.
Faisons ça.
Je commencerai par une hypothèse en quelque sorte ludique. Vous savez que l'on s'est amusé, au 19e et 20e siècle, à classer les sociétés en deux types, selon la manière dont elles traitaient leurs morts. C'est ainsi qu'on a distingué les sociétés incinérantes et les sociétés inhumantes. Je me demande si on ne pourrait pas essayer de classer les sociétés selon le sort qu'elles réservent, non pas aux défunts, mais à ceux d'entre les vivants dont elles veulent se débarrasser. selon la manière dont elles maîtrisent ceux qui essayent d'échapper au pouvoir, dont elles réagissent à ceux qui franchissent, brisent ou contournent d'une manière ou d'une autre les lois. Il y a un passage dans Triste Tropique où Lévi-Strauss dit que pour se débarrasser d'un individu dangereux, porteur d'une force redoutable et hostile, les sociétés n'ont finalement trouvé que deux moyens. L'un consiste à s'assimiler la substance même de cette énergie en neutralisant tout ce qu'il peut y avoir de périlleux, d'hostile en elle. C'est la solution anthropophagique, où l'absorption permet à la fois l'assimilation et la neutralisation de cette force. L'autre consiste à essayer de vaincre l'hostilité de cette force en neutralisant ce qu'il peut y avoir d'énergie en elle. Solution inverse, par conséquent, où il s'agit non pas de s'assimiler cette force, mais de la neutraliser, non pas de neutraliser l'hostilité, mais de la vaincre, et de s'en assurer là, la maîtrise. Il s'agit d'expulser ces êtres redoutables hors du corps social en les tenant temporairement ou définitivement isolés, sans contact avec l'humanité, dans des établissements destinés à cet usage. Cette pratique de l'exclusion, Lévi-Strauss l'appelle l'anthropémie, je le dis, c'est ça,
oui.
Non
oui. Oui, oui.
L'anthropémie du grec éméine, vomir. Oui, mais c'est du grec, bro, c'est pas
éméine. Ah oui, c'est vrai, bro.
vomir. Maîtriser les forces dangereuses de notre société, c'est non pas les assimiler, mais les exclure.
Je ne veux pas discuter de cette hypothèse, elle-même un peu ludique. Il se peut bien qu'une telle opposition puisse avoir une valeur descriptive quand il s'agit de repérer ou d'analyser des choses comme l'anthropophagie ou le rite du bouc émissaire. Mais je ne crois pas qu'elle puisse être considérée comme opératoire si l'on veut faire une analyse de type historique, et ceci pour plusieurs raisons. Cette notion d'exclusion me paraît d'abord trop large, et surtout composite et artificielle. Je le dis d'autant mieux que moi-même, j'en ai fait usage et peut-être abus. Elle a servi en effet à caractériser, à désigner assez lointainement le statut qui est donné dans une société comme la nôtre aux délinquants, aux minorités ethniques, religieuses, sexuelles, aux malades mentaux, aux individus qui tombent hors des circuits de production ou de consommation, bref, à tous ceux qu'on peut considérer comme anormaux ou déviants. Je ne pense pas que cette notion ait été inutile. À un moment donné, elle a pu exercer une fonction critique utile dans la mesure où il s'agissait de retourner ces notions psychologiques, sociologiques ou psychologiques qui avaient envahi le champ des sciences de l'homme, comme celle de déviance, d'inadaptation, d'anomalie, dont le contenu psychologique cachait une fonction bien précise, masquer les techniques, les procédures, les appareils par lesquels la société excluait un certain nombre d'individus, pour se les donner ensuite comme anormaux déviants. Dans cette mesure-là, la fonction d'inversion critique de cette notion d'exclusion par rapport aux notions psychosociologiques de défiance ou d'inadaptation a été importante. Mais, désolé, mais la taille du paragraphe est super drôle. Bref, mais il me semble qu'elle est devenue insuffisante, ou si on veut pousser l'analyse, dans la mesure où, au fond, la notion d'exclusion nous donne le statut de l'individu exclu dans le champ des représentations sociales. C'est à l'intérieur de celui-ci que l'exclu apparaît comme tel. Il ne communique plus avec les autres au niveau du système des représentations, et c'est en ceci qu'il apparaît comme précisément déviant. Cette notion d'exclusion me paraît donc demeurer à l'intérieur du champ des représentations et ne pas pouvoir, par conséquent, tenir compte ni analyser les luttes, les rapports, les opérations spécifiées du pouvoir, à partir de quoi précisément se fait l'exclusion. L'exclusion serait l'effet représentatif général d'un certain nombre de stratégies et de tactiques de pouvoir que la notion même d'exclusion ne peut par elle-même atteindre. En outre, cette notion laisse porter à la société en général la responsabilité du mécanisme par lequel l'exclu se trouve exclu. Autrement dit, on manque non seulement le mécanisme historique, politique de pouvoir, mais on risque d'être induit en erreur en ce qui concerne l'instance qui exclut, puisque l'exclusion semble se référer à quelque chose comme un consensus social qui rejette, alors que derrière cela, il y a peut-être un certain nombre d'instances parfaitement spécifiées, par conséquent définissables, de pouvoir qui sont responsables du mécanisme de l'exclusion.
Pardon.
je me suis fait baiser dans les fesses, là, je crois. On peut cœur, Sissi.
Ok, je continue.
Écoute, il y avait des phrases très longues.
C'est pas possible.
Je suis désolée, les amis, on devait faire des commentaires intelligents, mais à la place, on fait des commentaires de cons.
Ok. Alors, la deuxième raison pour laquelle je ne peux adhérer à l'hypothèse de Lévi-Strauss est la suivante. Il oppose, au fond, deux techniques qui seraient parfaitement différentes. L'une de rejet et l'autre d'assimilation. Je me demande s'il n'a pas été victime de la métaphore digestive induite par la notion même d'anthropophagie, parce que, quand on regarde de près comment se passent ces procédures d'exclusion, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas du tout en opposition avec les techniques d'assimilation. Il n'y a pas d'exil, de renfermement qui ne comporte, outre ce qu'on caractérise de manière générale comme expulsion, un transfert, une réactivation de ce pouvoir même qui impose, contraint et expulse. Ainsi, l'hôpital psychiatrique est bien le lieu institutionnel où et par quoi se fait l'expulsion du fou. En même temps, et par le jeu même de cette expulsion, il est également un foyer de constitution et de reconstitution d'une rationalité qui est instaurée autoritairement dans le cadre des rapports de pouvoir à l'intérieur de l'hôpital et qui va être réabsorbée à l'extérieur même de l'hôpital sous la forme d'un discours scientifique qui circulera à l'extérieur comme savoir sur la folie, dont la condition de possibilité pour qu'il soit précisément rationnel est l'hôpital.
J'aimerais t'arrêter deux secondes. Je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire de la psychiatrie en France au moins. Bon, là, on parle d'une société française, mais je sais pas, je pense que ce serait intéressant à mettre dans un contexte historique parce que ce texte date de 1973 et bon, clairement, c'est des pratiques d'exclusion qu'il y a toujours maintenant. Enfin, c'est un peu la fondation, donc ça le reste maintenant. Mais je ne sais pas, je me demandais si tu savais un peu l'histoire de ça. Parce que je sais pas, je pense qu'il y a des choses importantes à apporter.
D'un côté oui, d'un côté non. J'avais fait quelques recherches, enfin, j'ai lu quelques textes sur quand il était en Algérie. Quand Fanon était en Algérie.
Ah, d'accord, ok, parce que là on parle de Foucault.
Oui, non, mais parce que je pensais que c'était un texte sur Foucault et Fanon en fait. Et comment, genre, c'était l'antipsychiatrie, tu vois, enfin tout ça. Et comment, en fait, enfin surtout ce qui est genre. Qu'est-ce qu'ils appellent ça déjà? C'est genre la psychiatrie, enfin c'est genre un truc genre un peu genre décolonisation, tu vois, enfin tout ça.
Oh, ok.
Quoi déjà le terme?
Je vais me mute, je vais essayer de le rechercher sur Google, mais...
oui, j'avais fait quelques recherches, mais en même temps, je suis pas non plus genre super knowledgeable là-dessus, tu vois.
Oui, oui, je comprends. Il y a les traumatismes de la colonisation au niveau psychiatrique, mais...
Attends. La continue à parler de coloniale.
Ouais. Du coup, je vais continuer...
Ah, j'ai trouvé.
Ouais. Ah !
C'est okay. La psychothérapie institutionnelle.
La psychothérapie institutionnelle. Ah, je me disais que c'était institutionnel quelque chose, mais je n'étais pas sûre.
Donc, j'avais surtout lu sur tout ce qui est, genre, tu vois, enfin, dans les années...
Coloniale,
ouais, dans les années coloniales, la présence de Fanon et d'autres écrivains et surtout genre tu vois enfin de penseurs et tout qui étaient présents dans cet hôpital psychiatrique où ils ont un peu commencé enfin voilà cette manière de comment dire genre de traiter tu vois enfin les gens c'était à Saint-Alban tu sais.
C'est un, j'en ai entendu parler. Ouais,
exactement. T'avais aussi François Tocquel. Tocquel ?
Je ne le connais pas, je t'avoue.
C'était un mec, genre, catalan, un psychiatre.
Ah, ok.
Qui était le. Enfin, comment dire. Un des penseurs qui a le plus influencé et a genre, enseigné Fanon.
D'accord, d'accord. Ok, je ne savais pas.
Et donc, c'était un peu une manière de psychanalyse, en fait, qui, bah, tu vois, un peu, enfin, forcément, on en parle beaucoup maintenant, mais, par exemple, du fait que les systèmes et l'oppression, tu vois, tout ça va avoir un impact sur la personne, et qu'en fait, par exemple, le fou n'est pas quelqu'un
qui est naturellement fou, mais qu'en fait, c'est quelqu'un qui est fou en comparaison aux autres.
Oui, et donc, ok.
Et qu'en fait, enfin, tu vois, oui, donc, enfin, tu vois, plein de choses, on en parle maintenant, mais c'est vrai oui. qu'à ce moment-là, c'était
mais pas... Qu'elles ont des... ouais.
Et par exemple, tu vois, les patients eux-mêmes avaient une sorte, enfin, un journal, quoi, qui
ouais.
distribuait, qui... Enfin, ils étaient en charge, enfin, tu vois, ils prenaient les charges de ça. Et il y avait aussi un café, où en fait, c'était pratiquement genre une sorte de... d'endroit pour les mouvements sociaux, enfin tu vois les mouvements,
d'accord, oui,
un peu par l'organisation sociale et politique, mais dans un, enfin c'était le café
dans au sein de, ouais. quoi, oui c'est ça. Ouais.
En fait, parce que tous les patients y habitaient, mais aussi les médecins y habitaient.
D'accord. Tu vois, et les patients vraiment... et les médecins se retrouvaient.
Ouais, et donc ça s'appelait le café Bon Accueil.
Ok.
Bon Accueil. Donc c'était un club en fait, et ça c'était. Attends une seconde, je te trouve le... On a vraiment arrêté la lecture.
Écoute.
C'était à Blida.
On a donc... du mal à lire de toute façon.
Oui, donc c'est pas grave. Et donc quand il était... Oui, donc voilà. Il était à Blida et il a essayé de faire ce projet, tu vois, un hôpital différent, quoi. Où il disait, okay. par exemple, genre, il disait aux médecins de manger avec leurs patients, enfin, tu vois, de déjeuner
ah, oui, avec okay, leurs patients. D'accord.
Il voulait vraiment ne pas dépersonnaliser le patient,
ouais.
tu vois. Donc en fait, ils voulaient refaire un peu l'architecture sociale de l'hôpital, okay. et donc ouais. ça s'appelait Notre Journal, qui était imprimé par les patients, et donc ces journaux avaient en même temps une double fonction, tu vois. C'était en même temps, ils disaient genre, ceci va se passer dans l'hôpital cette semaine,
ouais.
et en même temps très genre thérapeutique et social, tu vois. Enfin,
ouais, de pouvoir écrire social, comme ça, créatif, et oui, voilà, c'est ça, ouais.
tu vois. Donc voilà, il y avait ça. Et attends une seconde, je te trouve un autre truc. Alors, et j'avais lu aussi des trucs sur Félix, comment on dit ça, Guattari, je pense. Et Laborde. Et lui aussi, il était, enfin c'était un autre. Parce que Jean Nourry, c'était un autre mec qui était à Saint-Alban.
Ok.
Et donc, il disait qu'en fait, un des premiers principes de la psychothérapie institutionnelle, oula, c'était que l'aliénation est une des sortes de conditions, enfin des dimensions humaines, de l'existence humaine les plus fondamentales.
Oh, d'accord.
Tu vois.
Ouais, ok.
Et donc, c'est théorique qui disait que particulièrement dans tout ce qui est dans le domaine de la psychose, il faut surtout penser à l'aliénation dans le domaine de la psychose et comment,
oui.
tu vois, et par exemple avec les œuvres de Lacan, tu vois comment le moi est aliéné du moi en fait, et en même temps de l'autre.
Ça c'est des trucs de HLP ça.
Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Mais donc ici tu vois il parle aussi de Lévi-Strauss et d'accord. de Et tu avais étudié un peu Lacan ?
Pas du tout, hein. Ça c'était HLP unique, on va dire.
Bon, en fait, il y a plusieurs théories du moi, mais en fait, toutes les personnes qui étaient impliquées dans Saint-Alban et à l'autre, là, l'autre hosto que j'ai nommé,
oui.
Ils parlaient de ça, tu vois, mais avec leurs patients, quoi.
Ouais.
Et donc, c'est une éducation mutuelle.
Ouais.
Et c'est pour ça que je pense à ça. Et c'est pas obviously, tout était très lié au colonialisme.
Oui.
Et au mouvement anti-colonial.
Oui, du coup, oui, en conséquence. Voilà. Ok. Bah écoute, petit aparté. J'apprécie.
Et ouais, mais en vrai, c'était même pas en France, puisque c'était donc.
Oui, mais bon, du coup, quand on parle de France coloniale.
Oui, voilà, dans les.
Ouais.
Ouais.
Oui, dans les territoires coloniaux. Mais ouais. Bon. Après, quelle est la France quand on parle d'une France coloniale, et bon, est-ce qu'on est toujours dans une France coloniale? Oui, un petit peu, donc tout ouais. est un peu.
Ah non, on est d'accord, en fait, non, je mens.
Je mens.
Saint-Alban était en France.
Ouais, Saint-Alban, c'est en France, oui. Par contre, le deuxième truc que tu citais, c'était en Algérie.
Oui, c'est en Algérie.
Ah, mais oui, par contre, oui, Saint-Alban, c'était en France. Ouais.
C'était au début un asile, ensuite un hôpital, ensuite. Le berceau de la psychothérapie institutionnelle, Ensuite, c'était un club. Bah, voilà, le club qui organisait la vie sociale.
Ok. Mm-hmm.
Oui, non, le club.
Wild 180.
Et ensuite, il y avait. Et voilà, et donc en fait, il y avait des mouvements de résistance clandestins animés par Tosquelles et Bonafé.
D'accord.
Pendant l'occupation et tout ça.
Ok, ok.
Voilà, très intéressant.
Bah, écoute, oui. Non, je pense que c'est un domaine que je ne connais pas du tout.
Je vais revenir tout
le temps. Il faut revenir. Du coup, j'avais éteint ma caméra parce que je n'ai pas beaucoup de batterie. Mais vas-y.
Ah, bon, bah. Ok. C'était à qui ?
C'était à toi toujours. T'as un big paragraphe devant toi.
Allons-y. Donc.
C'était, je pense que c'était à l'intérieur de l'hôpital.
Ouais, ouais.
Non, non.
On va commencer ainsi. Ok.
Ouais.
Allez.
C'est vrai que tu te hype.
Si quelqu'un écoute, wow, misérable pour moi.
Bah, y a ma pote, il y a ma pote Gillian.
Bah voilà. Alors, ainsi, l'hôpital psychiatrique est bien le lieu institutionnel où et par quoi se fait l'expulsion du fou. En même temps, et par le jeu même de cette expulsion, il est également un foyer de constitution et de reconstitution d'une rationalité qui est instaurée autoritairement dans le cadre des rapports de pouvoir à l'intérieur de l'hôpital et qui va être réabsorbé à l'extérieur même de l'hôpital sous la forme d'un discours scientifique qui circulera à l'extérieur comme savoir sur la folie, dont la condition de possibilité pour qu'il soit précisément rationnel est l'hôpital. À l'intérieur de l'hôpital, le fou est la cible d'un certain rapport d'autorité qui va s'articuler en décision, en ordre, en discipline. Ce rapport d'autorité se fonde sur un certain pouvoir qui est politique dans sa trame dernière, mais il se justifie aussi et s'articule à partir d'un certain nombre de conditions dites de rationalité. Et ce rapport qui s'exerce en permanence sur le fou à l'intérieur de l'hôpital et par la manière même dont le discours et le personnage du médecin fonctionnent dans la communauté scientifique et la société, reconvertis en éléments d'information rationnelle qui vont être réinvestis dans les rapports de pouvoir caractéristiques de la société. Ce qui est surveillance, en termes de rapport de pouvoir à l'intérieur de l'hôpital, va devenir observation scientifique dans le discours du médecin, par le fait même que le médecin, d'une part, occupe une position de pouvoir à l'intérieur de l'hôpital, et d'autre part, fonctionne comme tenant et ayant droit de tenir un discours scientifique à l'extérieur de l'hôpital. Beaucoup d'hôpitaux, là. Ce qui était classement consigne dans les termes du rapport d'autorité intérieure à l'hôpital va être converti en diagnostic ou en pronostic, en nosographie, dans le langage du médecin, qui se retrouvant à l'extérieur de l'hôpital, va fonctionner comme sujet d'un discours scientifique.
Je crois qu'on n'a pas les mêmes paragraphes.
De sorte que l'on voit comment un rapport politique qui structure toute la vie d'un hôpital psychiatrique se trouve reconverti en discours de rationalité, à partir duquel précisément l'autorité politique, à partir de laquelle est possible le fonctionnement de l'hôpital, va se trouver renforcée. Il y aurait à la fois transfert de l'intérieur de l'hôpital vers l'extérieur et renversement d'un rapport de pouvoir en une relation de savoir. Une seconde. Le malade apparaît bien à l'intérieur de l'hôpital comme la cible du rapport de pouvoir politique, mais il devient alors l'objet d'un savoir, d'un discours scientifique dans un système de rationalité générale, qui se trouve renforcé de ce fait même, puisque la rationalité a ainsi acquis le pouvoir de connaître non seulement ce qui se passe dans la nature, chez l'homme, mais ce qui se passe chez les fous. Il y a là une sorte de transfert et d'ingestion qui fait bien penser à ce que Lévi-Strauss appelle l'anthropophagie, un processus d'ingestion pour renforcement.
Ainsi, l'objet latéral et permanent de ce cours et sera une critique de cette notion d'exclusion ou, plus précisément, son élaboration selon des dimensions qui permettent à la fois de la décomposer en ses éléments constituants et de retrouver les rapports de pouvoir qui la sous-entendent et la rendent possible. Il faudra peut-être, de la même façon, faire la critique d'une notion dont la fortune a été corrélative de celle-ci, celle de transgression. La notion de transgression a joué durant une période un rôle à peu près comparable à celui de la notion d'exclusion. Elle a permis, elle aussi, une sorte d'inversion critique importante dans la mesure où elle a permis de contourner des notions comme celle d'anomalie, de faute, de loi. Elle a autorisé un renversement négatif en positif, du positif en négatif. Elle a permis d'ordonner toutes ces notions non plus à celles majeures de loi, mais à celle de limite.
Mais je crois que les notions d'exclusion et de transgression doivent être considérées maintenant comme des instruments qui ont eu historiquement leur importance. Elles ont été durant une période donnée, des inverseurs critiques dans le champ de la représentation juridique, politique et morale. Mais ces inverseurs demeurent ordonnés au système général des représentations contre lesquelles ils étaient tournés. Il me semble que les directions qu'indiquaient les analyses menées en termes d'exclusion et de transgression doivent être suivies dans des dimensions nouvelles, où il ne sera plus question de la loi, de la règle, de la représentation, mais du pouvoir plutôt que de la loi, du savoir plutôt que de la représentation. Ok, ensuite c'est un nouveau petit truc. Je veux justifier le titre du cours et parler de cette notion de punition. Si j'ai pris précisément cette notion plate, naïve, faible, puérile, c'est que justement, je voulais reprendre les choses au niveau même de leur développement historique, en commençant par l'analyse de ce qu'on pourrait appeler les tactiques fines de la sanction. Je commencerai par en repérer quelques-unes. Il me semble qu'on peut repérer quatre grandes formes de tactiques punitives que je définirai par des verbes plutôt que par des substantifs.
Premièrement, exclure. Ce terme est ici employé au sens strict et non pas aussi bien comme dans le texte de Lévi-Strauss, au sens d'enfermer, mais au sens d'exiler, de chasser, faire passer dehors. Par cette tactique punitive, il s'agit d'interdire la présence d'un individu dans des lieux communautaires ou sacrés, de lever ou de prohiber à son égard toutes les règles de l'hospitalité. Il s'agit de le priver de sa maison, de supprimer même la réalité de son foyer, comme quand on brûle la maison d'un banni, ou encore, selon un droit médiéval qui s'est prolongé longtemps et jusque dans les pratiques révolutionnaires, quand on incendie le toit de la maison de la personne que l'on veut bannir. Cette tactique fut mise en œuvre d'une façon très privilégiée dans la pénalité grecque archaïque. Deuxièmement, organiser un rachat, imposer une compensation. Dans cette tactique, la rupture de la règle, l'infraction, vont provoquer deux démarches. D'une part, l'émergence de quelqu'un, individu ou groupe, qui va être constitué comme victime du dommage et pouvoir, de ce fait, demander réparation. La faute, d'autre part, va susciter un certain nombre d'obligations pour celui qui est considéré comme infracteur. Ainsi, autour de l'infraction, il va y avoir non pas ce phénomène de vide comme dans le premier cas, mais la constitution de tout un réseau spécifique d'obligations comparable à une dette qu'il faudrait rembourser ou un dommage qu'il faudrait réparer. Celui qui a contrevenu aux règles se trouve ainsi pris de force dans un ensemble d'engagements qui le contraignent. Il y a là une tactique différente de la précédente. Dans la première, il s'agit de rompre tous les liens avec l'individu, tous les liens par lesquels il est tenu à l'intérieur du pouvoir. Ici, au contraire, il s'agit de prendre l'infracteur à l'intérieur d'un réseau d'obligations multipliées, exalté par rapport au réseau traditionnel dans lequel il se trouve.
Est-ce que je pourrais te demander de faire un autre paragraphe pour que je puisse poster une photo pour Mars ?
Oui, bien sûr. Troisièmement, marquer, faire une cicatrice, déposer un signe sur le corps, bref, imposer à ce corps une diminution virtuelle ou visible, ou bien, si l'on n'atteint pas le corps réel de l'individu, infliger une souillure symbolique à son nom, humilier son personnage, entamer son statut. De toute façon, il s'agit de laisser sur le corps visible ou symbolique, physique ou social, anatomique ou statuaire, quelque chose comme une trace. L'individu qui aura commis l'infraction sera ainsi marqué d'un élément de mémoire et de reconnaissance. Dans ce système-là, l'infraction n'est plus ce qui doit être racheté, compensé, rééquilibré, et donc jusqu'à un certain point effacé, c'est au contraire ce qui doit être souligné, ce qui doit échapper à l'oubli, rester fixé dans une espèce de monument, quand bien même celui-ci serait cicatrice, amputation, quelque chose qui tourne autour de la honte ou de l'infamie. Ce sont tous les visages exposés au pilori, les mains coupées des voleurs. Le corps visible ou social doit être dans ce système le blason des peines, et ce blason renvoie à deux choses. D'une part à la faute, dont il doit constituer la trace visible et immédiatement reconnaissable, je sais bien que tu es un voleur puisque tu n'as plus de main, et d'autre part, au pouvoir qui a imposé la peine et qui, par cette peine, a déposé sur le corps du supplicié la marque de sa souveraineté. Dans la cicatrice ou l'amputation, ce n'est pas seulement la faute qui est visible, c'est le souverain. C'est cette tactique du marquage qui a été prépondérante en Occident depuis la fin du haut du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle.
Merci beaucoup. Quatrièmement, ça se dit ? Quatrièmement, allez, enfermé. Tactique que nous pratiquons, dont la mise en place définitive se situerait au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, nous parlerons des conditions politiques de l'enfermement pris dans sa forme la plus générale et des effets de savoir de cet enfermement. Ainsi, l'hypothèse de départ serait quelque chose du genre. Il y a des sociétés où des pénalités à exclusion, à rachat, à marquage ou à enfermement. Est-ce que cette première approche est valable ? J'avoue n'en rien savoir encore. Oui. Il y a en tout cas des objections immédiates qui se présentent et dont je voudrais parler. Par exemple, celle-ci. On a proposé une critique un peu générale, abstraite, de la notion d'exclusion, lui reprochant en quelque sorte d'être une notion d'un trop haut niveau de généralité, non opératoire au niveau historique, mais voilà que l'on se met à définir des tactiques pénales qui, après tout, risquent de tomber sous la même critique, puisque que ce soit le marquage, l'enfermement, etc., de toute façon, il s'agit là de schémas tout à fait abstraits, eu égard... Oula. C'est quoi ça ?
Ouais.
Eu égard au corpus parfaitement défini et d'ailleurs assez constant des peines réelles. Si l'on s'en tient au plan historique, on sait bien que l'alphabet des peines est relativement limité et fermé. Il serait peut-être beaucoup plus raisonnable, plutôt que d'introduire des notions comme celle d'enfermement, de marquage, etc., de parler des peines réelles qui ont été effectivement mises en œuvre dans les sociétés, par exemple l'amende, la mise à mort.
Or, ce que je voulais montrer, c'est que des peines à la fois statutaires et apparemment constantes ne jouent pas du tout le même rôle, ne répondent pas en fait à la même économie du pouvoir dans un système ou dans un autre. Prenons d'abord le premier cas de l'amende. Dans tous les systèmes pénaux, que l'exclusion, le marquage, l'enfermement soient dominants ou non dans chacun, le prélèvement de biens est une pénalité constante. Or, je crois qu'on peut voir la fonction tactique de cette punition varier dans les différents systèmes. Dans la tactique d'exclusion, qu'est-ce que confisquer des biens ? C'est une certaine manière de supprimer ou de compromettre le droit de résidence, de suspendre par ce fait les privilèges politiques, les droits civils afférents à ces propriétés ainsi supprimées. C'est une certaine manière d'effacer la citoyenneté de l'infracteur. C'est le contraindre à aller chercher ailleurs une place au soleil. C'est l'empêcher de laisser derrière lui, après son départ ou sa mort, des biens. La tactique de l'amende joue, à l'intérieur d'un système d'exclusion, le rôle d'un exil sur place ou d'un exil indirect.
Dans une tactique de rachat, on retrouve bien l'amende, mais celle-ci a une fonction tout à fait différente. Il s'agit ici d'obtenir de l'infracteur une compensation pour le dommage causé, d'obtenir qu'il verse une sorte de rançon pour la victime, mais aussi qu'il la verse comme une sorte d'indemnité ou de gage entre les mains de celui qui juge, qui joue le rôle d'arbitre, et qui risque par là le pouvoir qu'on lui reconnaît. L'amende a donc dans ce système deux fonctions. Compensation à l'égard de celui qu'on suppose lésé, et en même temps, gage donné à l'arbitre. Dans le système du marquage, l'amende a un autre rôle que celui de compensation. Elle est en effet très souvent symbolique dans ce système, et ne constitue pas véritablement une diminution du statut économique de l'individu. Elle ne compromet pas ses droits à la citoyenneté. Elle a plutôt la fonction symbolique de désigner le coupable, de le marquer comme tel et surtout de lui imposer la marque visible de la souveraineté du pouvoir. Payer une amende dans le système de marquage, c'est se plier devant ce rapport de pouvoir qui fait que quelqu'un, une autorité, peut effectivement vous contraindre à donner une somme d'argent, même si celle-ci est symbolique par rapport à la fortune possédée. L'amende n'est donc pas une sorte de peine que l'on retrouverait de la même façon dans n'importe quel système. C'est une procédure dont le rôle tactique est tout à fait différent selon les régimes punitifs à l'intérieur desquels elle figure.
On pourrait dire la même chose de la peine de mort, quand bien même, après tout, il semble qu'il n'y ait pas plusieurs façons de mourir. Or, justement, il y a dans le cadre de ces procédures par lesquelles un pouvoir réagit à quelque chose qui le conteste, bien des façons de mourir. Dans une tactique d'exclusion comme celle de la Grèce archaïque, l'exécution pure et simple, la mort directe, était finalement rare et réservée à des fautes bien particulières. Il y avait en fait des procédures particulières qui consistaient non pas à mettre à mort, mais plutôt à exposer quelqu'un à la mort en le rejetant hors du territoire, en l'abandonnant sans bien, en le laissant exposer à la vindicte publique, en le mettant en quelque sorte hors la loi de manière que n'importe qui pouvait le tuer, même si personne n'était effectivement désigné pour être l'exécuteur. Désolé, je m'arrête 2 minutes parce que ça me fait énormément penser au moment où, en gros, après la guerre civile américaine, ou non, après le moment où l'esclavagisme n'était plus un vrai truc, mais oui. Le fait qu'être homeless, c'était quand même illégal. Enfin voilà, ça me fait complètement penser à ça, puisque c'est cette exclusion un peu indirecte qui est pareil, qui est une sorte de mort sociale.
Enfin, bah, voilà. Attends. Si tu peux répéter la phrase où t'étais ?
J'étais. En fait, la phrase est juste super longue. Il y avait en fait des procédures particulières qui consistaient non pas à mettre à mort, mais plutôt à exposer quelqu'un à la mort. En le rejetant du territoire, en l'abandonnant sans bien, en le laissant exposer à la vindicte publique, en le mettant en quelque sorte hors la loi, de manière que n'importe qui pouvait le tuer, même si personne n'était effectivement désigné pour être l'exécuteur.
Oui. Ça me fait penser, il y a un livre qui s'appelle Health Communism.
Et, super.
Super. Communisme... Pourquoi dois-tu dire mon nom ? Mais il y a un livre qui s'appelle donc Communisme de la santé, ça serait ça, oui. Et il parle d'un terme, c'est genre l'abandonnement, genre extractif. Enfin, je sais pas comment traduire ça, tu vois. Mais en fait, le fait que, par exemple, le gouvernement américain va abandonner les gens qui sont handicapés. Par exemple, tu peux que avoir 2 000 $ en argent dans ton compte
Medicaid ou je sais pas quoi.
Non, dans ton compte de banque en savings.
Ok.
Comment on dit en savings?
Compte épargne.
Ouais, ton compte d'épargne. Tu peux qu'avoir 2 000 $ à n'importe quel moment. Sinon, tu es considéré genre trop riche pour être handicapé.
D'accord.
Mais t'imagines par exemple, du coup, tu as que 2 000 $. Disons que tu dois prendre une voiture tous les jours parce que tu es en chaise roulante et donc tu as une voiture, enfin, marche pour vois. Et donc, et t'imagines, ta voiture se casse.
Bah ouais.
Et donc, du coup, t'es trop handicapé pour prendre genre le bus
ou le métro.
Et en même temps, t'es trop handicapé. Enfin, tu vois,
t'as pas assez d'argent pour prendre un Uber.
Pour le gouvernement, t'as pas assez d'argent pour faire réparer
aussi, ta voiture,
tu vois.
Ouais.
Donc, du coup, t'es vraiment dans la merde. Donc, par exemple, ça. Mais donc, en fait, ils vont. T'abandonner, par exemple, genre dans le système médical aussi, tu vois, complètement te. Enfin, ne pas.
Ostracize.
Oui, genre. Enfin, t'isoler aussi. Enfin, te faire payer pour des traitements qui, en fin de compte, tu vois, ne vont rien faire et tout ça.
Te faire payer pour ta propre condition que tu n'as pas choisi non plus. Qui est des fois d'ailleurs, qui est aussi. Souvent, enfin, pas souvent, mais aux États-Unis, t'as beaucoup de zones. Qui sont devenus très infectés, où il y avait des maladies chroniques très connues à cause d'entreprises ou de factories, etc.
Absolument. Des conditions dans l'eau, la pollution et tout. Mais du coup, à cause de ça, ils parlent du fait qu'en fait, ils vont t'abandonner jusqu'à ce que. Mais en même temps, ils vont te demander de travailler pour eux. Tu vois. Ils parlent aussi un peu de ça, c'est l'émergence d'un pouvoir donc, qui est disciplinaire. Et en fait, dont la finalité, c'est une constitution d'une force de travail, tu vois. En fait, ils veulent contrôler et surveiller et punir pour pouvoir créer cette force de travail qui ne peut pas aller autre part, tu vois, qui ne peut rien faire, sauf faire exactement ce qu'ils veulent qu'on fasse.
C'était pour dire que j'avais aussi un commentaire d'une personne complètement inconnue. Qui était complètement d'accord avec toi et qui disait que c'était pour influencer le public et montrer un bon exemple, donc avoir une workforce, une force ouvrière docile.
Et donc en fait, genre cette notion d'exclusion, en fait, ça nous laisse un peu oublier, je pense, l'effet que il parle de ça, que les mécanismes, qu'il y a des mécanismes très particuliers qui mettent en place et qui fonctionne exactement comme ils l'ont été, enfin, design, tu vois.
Genre, oui, meant.
Ça a été créé pour ça.
Mm-hmm.
Qui sont, enfin, au fond, enfin, c'est ça la cause de l'exclusion, en fait. Mm-hmm. Quand on parle juste de, ah, bah, cette personne, elle est exclue, tu vois, enfin, mais pourquoi elle est exclue, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé, enfin, à quel moment cette personne est devenue, a perdu un peu sa valeur de travail, tu vois. Enfin, sa capacité, enfin, tu vois, si t'as pas de capacité à travailler, immédiatement, t'as plus de valeur pour le système.
Oui, oui, c'est clair. Donc, surtout un système aussi dur socialement que ce que l'américain.
C'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi par rapport à l'hôpital psychiatrique, que, enfin, tu vois, je trouve ça très intéressant que justement le lieu d'exclusion devienne un peu le lieu où est créée cette réalité, enfin cette vérité, tu vois.
Qui
qui ensuite, enfin, diffusé dans la société à travers les gens qui bossent dans l'hôpital psychiatrique, les, enfin, les gens qui sont,
qui et leur propre traumatisme qui vient de l'hôpital.
Et tu vois, c'est vrai, d'ailleurs, c'est qu'en fait, les observations, par exemple, même Fanon, tu vois, à l'hôpital, enfin, il n'était pas patient. Donc, tu vois, en soi, c'est vrai que même ses observations à lui sont devenues un peu des vérités acceptées sur comment fonctionne l'hôpital psychiatrique, comment fonctionne la mentalité du comme fou, tu vois. Alors qu'en soi, lui-même n'était pas fou.
Ouais. Oui, c'est ça. Il a... Enfin, s'il peut comprendre, d'un côté, s'il peut comprendre comment le fou fonctionne, est-ce que lui-même, il n'est pas fou
Oui, mais aussi, comment est-ce qu'on sait qu'il comprenne parfaitement,
voilà. Oui, oui, c'est ça. Oui, peut-être que lui, il est fou. Enfin, y a pas... Après, c'est quelle est la délimitation entre le fou et celui qui observe assez bien le fou.
Il n'a rien à dire, tu vois. C'est pas ce que je suis en train de dire.
Non, mais bien sûr, mais oui. Enfin, en fait, la
mais même en soi, entre... tu vois, tu peux un peu te demander, enfin, voilà, d'où viennent les vérités dont qu'on accepte tous les jours.
Oui.
La majorité, ça vient pas des gens qui eux-mêmes sont exclus.
Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais. Ouais.
Petit point. Ok, on continue.
Oui. Il y avait encore cette manière de tuer qui consistait à jeter quelqu'un du haut d'une falaise dans la mer, c'est-à-dire à le faire basculer de l'autre côté des limites du territoire, à le priver au sens strict du sol maternel et à l'exposer ainsi brutalement, sans aucun recours, sans aucun appui, au seul pouvoir des dieux. C'était cela, la forme abrupte de l'exil. Dans un système de rachat, la mort-châtiment était, au fond, le retour de la dette. C'était la manière dont un meurtre devait être payé. Et la meilleure preuve que ce n'était que cela, c'est que le meurtre pouvait être puni par la mort, non pas du coupable, mais de l'un de ses parents. Il fallait que l'exécution équivaille au remboursement de la dette, et non pas au châtiment de l'individu dit coupable.
Dans la pratique du marquage, il est facile de voir combien la mort est une opération physique spécifiée, un travail au corps, une manière ritualisée d'inscrire les marques du pouvoir sur le corps de l'individu, son statut de coupable, ou d'inscrire au moins dans l'effroi du spectateur la mémoire de la faute. Si on voit de la fin du Moyen-Âge au XVIIIe siècle une si somptueuse variété de supplices, c'est qu'il fallait précisément tenir compte de toute une série de variables. Du statut du coupable, par exemple, et l'on a... Non, du statut du coupable, par exemple, et l'on a la décapitation... Oula. Et l'on a la décapitation, qui est la mort marquée du sceau du noble et la pendaison, qui est la mort telle qu'elle va marquer le vilain. On a le bûcher pour l'hérétique, l'écartèlement pour les traîtres, l'essoreillement pour les voleurs, les langues percées pour les blasphémateurs, etc. On peut rappeler une des scènes les plus prodigieuses de cette mort par marquage, la mise à mort de Damien. Damien en 1757. Damien qui a d'abord été condamné à l'amende honorable, puis placé sur la roue, et dont on a brisé les membres à coups de barre de fer, dont on a cisaillé la poitrine, sur les plaies duquel on a versé de la cire brûlante, puis qui a été écartelé et dont on a découpé les articulations.
Qui a été super, super ce show. Non.
Rigole.
Non. Oui, je rigole. Écoute, on s'amuse bien dans ce broadcast. Hein.
Mais, et dont on a découpé donc les articulations, qui a été incinéré et dont les cendres ont été finalement jetées au vent. Tout cela a fonctionné jusque dans l'imagination du temps, comme la dernière mise en scène de cet alphabet des supplices. Le souverain avait été égratigné par un illuminé sorti de la foule. À ce geste, le pouvoir politique a répondu par l'étalage le plus complet de son blason pénal. Il a exhibé les traces les plus atroces et en même temps les plus rituelles de son droit de justice. Le souverain a montré ce qu'il pouvait faire du corps d'un homme. Si on retrouve la mort dans notre pénalité, qui est essentiellement une pénalité d'enfermement, c'est que la mort y joue non plus le rôle d'une sorte d'étalage des marques du pouvoir sur le corps humain, mais celui de la forme extrême et finale, de la forme parfaite et indépassable de l'enfermement. On y soumet à cette sorte d'enfermement redoublé, ce qu'il faut être sûr d'avoir enfermé une fois pour toutes. La mort, ce n'est plus le supplice, c'est la clôture définitive, l'absolue sécurité.
Si j'ai tenté de montrer la manière dont varie la mort ou l'amende selon les quatre grandes tactiques punitives, c'est que j'essayais de rendre autonome ce niveau auquel je voudrais précisément m'adresser. Ce niveau qui n'est ni celui des grandes fonctions, de ces grandes fonctions comme celle de l'exclusion ou de l'anthropophagie, ni celui des peines telles que définies par les codes ou les coutumes, et dont la permanence masque, je crois, la différence des rôles. Entre ces fonctions générales et ces rôles divers exercés par les peines, il y a un niveau à explorer, celui des tactiques pénales. À propos de ces tactiques pénales, je voudrais faire remarquer un certain nombre de choses. Premièrement, j'ai parlé d'exécution, j'ai essayé de les caractériser par des termes tels qu'exclure, enfermer, c'est-à-dire comme des opérations qui trouvent leur place entre le pouvoir et ce sur quoi s'exerce le pouvoir. Ce sont des opérations qui se déroulent tout entières à l'intérieur de la sphère du pouvoir. En prenant ce niveau comme niveau premier d'une analyse, je n'ai pas voulu déduire les systèmes pénaux d'un certain nombre de représentations juridiques ou éthiques de la faute du crime ou du crime. Je ne poserai donc pas le problème dans les termes suivants. Quelle idée a-t-on pu se faire du mal ou de la faute pour qu'on y réponde de telle ou telle manière, par l'exil ou par l'enfermement ? Je poserai la question autrement. Si j'ai parlé avant tout de ces tactiques, c'est que je voudrais élucider la question suivante. Quelle forme de pouvoir se trouve effectivement jouée pour qu'aux infractions qui mettent en cause ces lois, ces exercices, ces règles, ils répondent par des tactiques telles que l'exclusion, la marque, l'achat ou l'enfermement. Si je m'attaque à ces tactiques, et principalement à l'enfermement, ce n'est pas pour essayer de reconstituer l'ensemble des représentations juridiques et morales qui sont censées apporter et justifier ces pratiques pénales, c'est que je voudrais définir à partir de là les rapports du pouvoir effectivement mis en œuvre à travers ces tactiques. Autrement dit, c'est comme analyse des rapports de pouvoir que je voudrais aborder ces tactiques, et non pas comme révélateur d'une idéologie. La pénalité comme analyseur de pouvoir, voilà le thème de ce cours.
DJ Poisson Pané, les mots se perdent un peu. Là.
Les mots se perdent là, DJ Croc.
Ceci veut dire, en second lieu, que s'il est vrai que le système des tactiques pénales peut être envisagé comme analyseur des rapports de pouvoir, l'élément qui va être considéré comme central sera l'élément de la lutte politique autour du pouvoir contre lui. C'est là tout le jeu de conflit, de lutte qu'il y a entre le pouvoir tel qu'il s'exerce dans une société et les individus ou groupes qui cherchent d'une manière ou d'une autre à échapper à ce pouvoir, qui le contestent localement ou globalement, qui contreviennent à ses ordres et à ses règlements. Je ne veux pas dire que je considérais comme étant absolument équivalente la délinquance dite de droit commun et la délinquance politique. Mais je veux dire... Quoi ?
Tu crois qu'on perd...
Je veux dire que pour faire l'analyse d'un système pénal, ce qui doit être premièrement dégagé, c'est la nature des luttes qui, dans une société, se déroulent autour du pouvoir. C'est donc la notion de guerre civile qui doit être mise au cœur de toutes ces analyses de la pénalité. La guerre civile est, je crois, une notion philosophiquement, politiquement, historiquement assez mal élaborée. Il y a à cela un certain nombre de raisons. Il me semble justement que le recouvrement, la dénégation de la guerre civile, l'affirmation que la guerre civile n'existe pas, est un des premiers axiomes de l'exercice du pouvoir. Cet axiome a eu des répercussions théoriques immenses, puisque que l'on s'adresse à Hobbes ou à Rousseau, de toute façon, on voit que la guerre civile n'est jamais considérée comme quelque chose de positif, de central, qui puisse servir en soi de point de départ à une analyse. Ou bien on parle de la guerre de tous contre tous, comme étant ce qui existe avant le pacte social, Et à ce moment-là, ce n'est plus la guerre civile, c'est la guerre naturelle. Et à partir du moment où il y a contrat, la guerre civile ne peut être que le prolongement monstrueux de la guerre de tous contre tous dans une structure sociale qui devrait normalement être commandée par le pacte. Ou bien on conçoit au contraire la guerre civile comme n'étant pas autre chose que l'effet en quelque sorte rétroactif d'une guerre extérieure sur la cité même, le reflux de la guerre en deçà des frontières. C'est donc ici la projection monstrueuse de la guerre extérieure sur l'État. Dans une analyse comme dans l'autre, la guerre civile, c'est l'accident, l'anomalie et ce qu'il faut éviter dans la mesure même où c'est la monstruosité théorético-pratique.
Or, je voudrais mener l'analyse en considérant au contraire que la guerre civile est l'état permanent à partir duquel peut et doit se comprendre un certain nombre de ces tactiques de lutte dont la pénalité est précisément un exemple privilégié. La guerre civile est la matrice de toutes les luttes de pouvoir, de toutes les stratégies du pouvoir et, par conséquent, aussi la matrice de toutes les luttes à propos du et contre le pouvoir. C'est la matrice générale qui va permettre de comprendre la mise en place et le fonctionnement d'une stratégie particulière de la pénalité, celle de l'enfermement. Ce que je vais essayer de montrer, c'est ce jeu, dans la société du XIXe siècle, entre une guerre civile permanente et les tactiques opposées du pouvoir. Oh bah c'est fini.
C'est fini.
Bon, ah bah. Oui, il y a 8 pages de notes.
Ouais. Le texte de. J'essaie de voir s'il y a des notes qui seraient un peu importantes, surtout dans ce que lui-même a écrit.
Ouais.
Ce masquage des rapports de pouvoir sous les mécanismes sociaux est un des phénomènes caractéristiques de la manière dont s'est exercé le pouvoir dans le capitalisme industriel. Prenons comme symbole de ce masquage deux scènes. Celle où la foule assiste à l'exécution d'un coupable, donc au déploiement des signes du pouvoir, et se presse autour de l'échafaud pour voir l'exposition et le supplice. Ou alors celle où l'exécution se passe de nuit et à la dérobée, mais où l'exercice du pouvoir se masque sous une enquête d'opinion. On pourrait de la même façon montrer comment le passage du supplice à l'enfermement correspond à ce glissement du rapport de pouvoir au mécanisme social.
Bonne conclusion, oui, j'aime bien.
Voilà.
Ouais.
Donc, qu'en penses-tu ?
Eh bien, écoute, c'est un français, juste déjà en termes d'écriture, c'est un français beaucoup plus oral que ce que je pensais.
C'est un cours qu'il a donné.
Oui, c'est vrai, mais écoute, moi, le dernier texte philosophique que j'ai lu, c'était Kant, et je ne l'ai pas lu, j'ai été traumatisée par...
En tant que Kant, c'est l'autre extrait.
Voilà. Voilà. Donc c'était beaucoup plus oral, ce qui était pratique. Ouais. Enfin, ce qui est logique du coup, puisque c'est un cours. Mais
ouais. Je trouve que honnêtement, c'est un texte que j'avais lu en anglais la première fois, honnêtement. Pas forcément tout compris. C'est vrai que de le relire en français, ça fait du bien.
Okay.
C'est vrai que parfois il y a des mots, tu vois, qui peuvent pas être traduits, mais
c'est que souvent l'anglais, je trouve que c'est encore plus oral, donc je trouve que ça aurait été limite plus facile, non ? Généralement, quand j'ai un texte en anglais, c'est plus facile.
C'est que j'ai l'habitude de lire de la philo en français.
Ah oui, c'est vrai que tu m'avais déjà dit ça. Ouais. Oui.
Surtout de lire en anglais, c'est un peu perturbant. Mais c'était un cours justement sur tout ce qui était anti-psychiatrie, psychiatrie.
D'accord.
Tu vois, psychothérapie institutionnelle.
Ok.
Très intéressant. Donc,
les bruits. Les bruits de ville.
Mais très intéressant comme cours. Mais donc j'avais lu ça. Et c'est vrai qu'on avait du coup parlé en même temps de ce livre de communisme de santé là. Et c'était particulièrement centré sur du coup le handicap et les fous, justement.
D'accord.
Enfin, le handicap mental, tu vois.
Oui. Les malades mentaux, comme il dirait. Comme dirait Foucault.
Voilà. Et on parlait de communautés qui existent en Europe et autre part.
Oui.
De gens, donc de. Enfin, comment on dit ça de manière. Voilà, disons, utilisons ces termes de malades mentaux. Qui existe, enfin qui habite avec des gens qui sont neurotypiques et mais enfin tu vois t'as pas besoin d'être médicalisé ou genre enfin aliéné ou isolé Mmh. Tu vois, les gens peuvent vivre un peu
oui,
la manière dont ils veulent vivre. Et tout le monde est aware, tout le monde sait que c'est qu'une partie de la population a quelques particularités.
Oui.
Enfin, je trouve ça intéressant de penser à ça et par exemple au club qu'ils avaient,
mmh.
Un peu à Saint-Alban et tout.
Mmh.
Et genre, tu te dis, on n'en parle pas souvent de communauté où c'est les gens. Enfin, toi, les gens qui sont handicapés mentalement.
Oui, c'est clair.
Qui sont eux-mêmes en charge de leur représentation sociale.
Oui. Oui.
De leur pensée, de leur écriture, de leur production. Oui.
Ils sont souvent vus comme, franchement, pas très loin de l'animal, genre comme un être qui ne peut pas se défendre et comme.
Ou alors qui, justement, est beaucoup trop agressif. Trop agressif.
C'est vrai. Oui. En fait, c'est les deux inverses, mais en gros, comme quelqu'un qui ne peut jamais être rationnel parce qu'il a une condition.
Alors que quand tu penses à la quantité de personnes dans cette situation, qui sont dans cette situation à cause d'un traumatisme, ou notamment de quelque chose qui s'est passé à cause de l'État, ou de la manière dont ils ont grandi,
par exemple,
en pauvreté,
une dérive systémique, on va dire.
Voilà.
Ouais. Et puis même si on pense à toutes les personnes qui juste ont appris à vivre en société malgré une condition qu'ils peuvent avoir dû à un traumatisme, etc. En fait, la définition de malade mental est du coup beaucoup plus élargie. Enfin,
c'est ça. Et c'est marrant aussi de se dire, enfin, tu vois, comment penseraient genre des gens comme Foucault et tout s'ils voyaient à quel point la santé mentale c'est un buzzword,
C'est vrai.
Quelque chose dont tout le monde parle, alors que vraiment les gens qui sont particulièrement affectés par les difficultés mentales, de santé mentale, sont quand même aliénés. Surtout s'ils utilisent genre des drogues ou s'ils vivent en pauvreté, s'ils sont, tu vois.
Et puis c'est un cycle. Généralement, tu n'as pas l'un sans l'autre, donc, l'un vient avec une ribambelle d'autres.
Ouais. Mais voilà, je trouve que surtout dans ce moment-là, tu vois, même tu penses à.
Oui.
Je sais pas, tu penses aussi. Genre à tout, au système de punition, de surveillance, aux États-Unis en ce moment. Et la manière dont tout le monde soit criminalisé, soit mis en institution ou en hôpital psychiatrique, tu vois.
C'est
soit
ça.
Vit en pauvreté au point où genre, ils peuvent même pas résister, tu vois, au système parce que t'as pas le temps quand tu bosses 3 jobs.
Ouais, tu succombes.
Ouais, exactement.
Ouais, tu croules. Enfin, en fait, quand tu fais ça, tu peux te dire que t'es pas en train de crouler et que tu gères, etc. Mais en vrai, t'es complètement dans le système, quoi.
C'est ça. Mm. Donc, c'est vraiment, tu vois, même quand je pense au fait que les gens, maintenant, ils savent pas le dire, tu vois.
Mm-hmm.
Et genre,
moi tout à l'heure,
Non, mais comment les gens ils savent pas lire et que. Mais c'est complètement forcé par le gouvernement. Genre, tu vas dans une école publique américaine, dans un collège américain, les gamins ne savent pas lire, ils ne savent
c'est
pas
triste,
lire et on ne leur apprend pas.
Mm-hmm. C'est
et
clair.
Et tu te dis, mais on peut pas avoir des citoyens qui pensent, qui résistent au système et qui ne conforment pas aux lois, qui peuvent résister à cette forme de surveillance, si les gamins ne peuvent même pas lire.
Oui, tu peux. De toute façon, si tu ne peux pas lire un contrat qui va t'enfermer,
tu ne peux pas t'éduquer toi-même en ce moment.
De quoi tu ne peux pas t'éduquer. Tu t'éduques forcément via. En fait, tu peux pas rechercher. Et puis, de toute façon, les gens sont en train de perdre leur capacité de recherche de toute façon.
En plus, maintenant, si tu peux pas lire un peu, entre les lignes, voir un peu ce qui est vrai et ce qui est faux en termes d'informations en ligne,
c'est clair.
Tu vois, tu peux pas. T'as plein d'informations
se contredisent et puis elles sont juste fausses ou alors elles sont écrites par une machine qui t'a probablement pas dans le meilleur intérêt donc
ou alors c'est vraiment tout ce que tu comprends c'est genre le gouvernement veut, enfin tu vois, veut ça, t'aider, veut faire ce qu'ils peuvent de mieux, tu vois, tout ça. Et en fait, les gens qui prennent dans la rue, qui kidnappent, c'est eux, les villains, enfin tout ça. Et bah, t'y crois si tu sais pas différencier.
Oui, c'est clair.
Donc voilà. Bon, écoute,
quelle conversation insightful.
Quelle conversation. Là, c'était la société punitive de Foucault, lue, mais vraiment de la meilleure manière.
Comme des pros.
Comme des pros.
Comme des pros. Vous n'entendrez jamais quelque chose comme en fait. Ça. Mais c'est ça.
Vous n'avez jamais. Un audiobook ne pourra jamais
être
en compétition avec nous.
Jamais tu pourras avoir deux personnes qui parlent en même temps, qui font les mêmes commentaires et en plus qui disent des bêtises. Vraiment, ça, l'IA ne peut pas remplacer ça. Hein. Ah là là. Je crois que tu bugs.
Oh. Finis ta phrase, j'ai pas entendu.
Et ben, en fait, je crois que j'ai bugué. L'IA ne peut certainement pas remplacer une expertise.
Exactement.
Une telle expertise. Hein.
Mais vraiment la connexion émotionnelle.
Qu'on a, c'est clair.
Qui était vraiment palpable.
Complètement, dans la complètement folle.
Donc voilà.
Okay. On dit des bêtises.
C'était la radio. On dit la radio mousse, on dit la radio mousse.
C'est la radio mousse.
Donc vous écoutez la radio mousse sur mossradio.com. C'était DJ Croc.
Et DJ Poisson.
Donc, en fait, la moitié du temps, c'est DJ Poisson, la moitié du temps, c'est DJ Poisson pané. Donc, la moitié du temps, il est cru, le poisson. Hein. Et voilà. Bon, je t'entends même plus. Vous êtes en train d'écouter, donc, encore une fois, La société punitive de Michel Foucault. Et on va vous quitter, parce que vraiment, il faut
être trop fatigué. J'avais oublié mon prénom, désolé, les amis. C'est DJ Poisson pané. Je crois. Non, DJ Poisson.
DJ Poisson, allez.
Je suis DJ Poisson.
Allez, adjugé, au revoir.
Allez, adjugé.
Attends. Hop.